partie d'un père et de son fils qui, s'ils s'aiment, ne se comprennent pas quand ils aspirent à de si différentes choses. Monsieur, accepteriez-vous que je prenne Robin comme apprenti dans mon apothicairerie ? Le laboureur écarquilla les yeux incrédules. Puis, une fois la surprise passée, il fronça les sourcils comme s'il se demandait si l'apothicaire ne lui jouait pas quelque tour. « Maître, vous vous fichez de nous ?»«
Pas du tout. »«
Mais, à la fin des fins, le Robin n'a point fait d'études, et nous n'avons pas les moyens de vous compenser pour le feu et le lieu, ni même de lui pouiller un droit d'entrée dans votre confrérie. Je me propose de le former, monsieur, de lui assurer le feu et le lieu et de payer son droit d'entrée. Si au lieu des 6 années ordinaires, vous me confiez votre fils pour 8 années pleines. » Le paysan resta bouche bée. Il regardait Andreas comme s'il se fût agi soit d'un saint, soit d'un illuminé, et sembla conclure qu'il s'agissait peut-être un peu des deux. « Vous l'y en avez causé ?» demanda l'homme, un peu pris au dépourvu. « Non, pas encore. Je ne veux pas nuire à vos relations avec Maître Allégret, j'attendais votre accord, et je vous laisserai alors le soin de le lui dire. » « Eh ben, je vous cache point que j'ai un peu de mal à écrire. Pourquoi, mon fils ?» Andreas, comprenant que la partie était gagnée, remit la capuche de sa cape bleue sur son crâne d'un air théâtral. « Parce que mon apprenti vient de terminer sa formation, que j'en cherche un nouveau, que les apprentis de qualité se font rares à Paris et que je crois que votre Robin n'a pas grand avenir dans les tavernes, mais quelques talents innés pour la pharmacie. » « Votre dame et vous-même, monsieur Messonnier, avez fait un enfant étonnant. » Chapitre 22. Le chancelier sortit de la grande salle du palais de la cité où s'était tenue comme à l'accoutumée l'audience du Parlement de Paris en l'absence du roi qui, cette fois, étant parti se reposer quelques jours en son château de Fontainebleau, n'avait pu tenir son lit de justice. Contrairement à la plupart des conseillers, notaires et huissiers qui, à l'issue de l'audience, étaient partis directement sur les quais de Seine en passant entre les deux tours du palais, Guillaume de Nogaret, qui portait la simarre violette propre à sa fonction, ainsi que, au bout d'une chaîne à son cou, le sceau royal qu'il tenait fermement de la main droite, emprunta vers l'ouest le couloir qui menait à la salle sur l'eau. Au fil des années, de simples juristes du Languedoc, l'homme était devenu l'un des plus proches conseillers du roi, en passant par les postes successifs de juge-mage et d'enquêteur, avant d'entrer en 1298 au Parlement où il siégeait toujours, puis au Conseil du roi, au sein duquel il avait été anobli. Éminence grise de Philippe le Bel, il avait été l'instigateur de l'attentat d'Anagni, apogée du conflit entre le roi et le pape Boniface VIII, et qui, bien que ce fût d'abord un échec, avait permis à Philippe d'installer par la suite la papauté au royaume de France, en Avignon. Nogaret, que d'aucuns appelaient encore l'homme qui a giflé le pape, avait reçu le titre de garde du sceau, et donc de chancelier, ainsi que de substantielles récompenses en terre et en argent, le 22 septembre 1307, le jour même où fut ordonnée l'arrestation des Templiers, ce qui laisse peu de doute au chroniqueur que nous tâchons d'être sur son implication décisive dans cet épisode sombre de notre histoire. C'était un homme déterminé, habité par le droit romain, et le ressentiment qu'il concevait à l'égard du pouvoir ecclésiastique, malgré sa foi très profonde, comme sa soumission absolue à la monarchie, étaient tous deux nourris par son passé de juriste de province, mais surtout par le sort atroce qu'on avait réservé à son grand-père, déclaré hérétique et massacré par l'Église lors de la croisade des Albigeois. Les pouvoirs de Nogaret étaient à présent immenses, décisifs quant aux inclinations politiques du Conseil, et capitaux dans les actes de justice du Parlement. Il avait en outre un regard sur toutes les ordonnances de Philippe le Bel, la position du sceau royal dont il était le dépositaire étant la conclusion obligatoire de toute décision gouvernementale. Toutefois, Nogaret comptait à la cour du Capétien un opposant et concurrent de taille en la personne d'Enguerrand de Marigny, chambellan et ministre de Philippe et demi-frère de l'archevêque de Sens. Marigny, qui était un homme plus subtil, moins partisan, était sans doute plus proche du roi encore, ce qui motivait l'animosité de Nogaret à son endroit. La salle sur l'eau,